l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Onzième épisode.
Où l'on raconte ce qui arriva à Don Quichotte alors qu'il allait voir sa dame Dulcinée du Toboso, et quelle ruse employa Sancho pour enchanter Dulcinée, et d'autres événements aussi divertissants que véridiques. Heureux, trois fois heureux, le siècle où l'intrépide chevalier Don Quichotte de la Manche vint au monde. Car en formant le noble dessein de ressusciter l'ordre de la chevalerie errante que l'on croyait mort et enterré, il nous offre en ces temps si pauvres en distraction le plaisir d'écouter sa belle et véridique histoire. Et pour reprendre de droit fil les chevaux de son récit, Sidi Ahmed Benengeli raconte que pendant trois jours, Don Quichotte et son écuyer Sancho réunirent ce qui leur parut nécessaire à leur troisième sortie. Puis ils partirent à la tombée de la nuit sans être vus de personne, sauf du bachelier Sanson Carrasco, qui avait voulu les accompagner à une demi-lieue du village. Ils prirent le chemin de la grande ville de Toboso. Don Quichotte sur son fidèle Rancinante, Sancho sur son vieux baudet, le bissac garni de provisions de bouche, et la bourse de l'argent que son maître lui avait remis en cas de besoin.
Sancho, plus nous avançons, plus la nuit devient noire. Si noire que nous risquons de ne pas arriver avec le jour au Toboso où j'ai décidé de me rendre avant de m'engager dans aucune aventure pour y recevoir la bénédiction de l'incomparable Dulcinée. Avec son approbation, je me sens capable de braver les plus grands dangers, car rien dans cette vie ne donne plus de courage à un chevalier errant que les faveurs de sa dame.
C'est aussi mon avis. Mais il me semble difficile que vous puissiez lui parler ou la voir, et qu'elle vous donne sa bénédiction, à moins qu'elle ne vous la jette par-dessus l'enclos de la basse-cour où je l'ai vue la première fois. Quand je lui ai apporté la lettre, où vous lui racontiez toutes les sottises et les folies que vous faisiez au fin fond de la Sierra Morena.
Un enclos de basse-cour, dis-tu, Sancho? Voilà donc l'idée que tu t'es faite du lieu où tu découvris cette beauté inégalable, digne de louanges infinies. C'était plutôt la galerie, le corridor ou le perron d'un riche et somptueux palais.
C'est possible. Mais moi, à moins d'avoir perdu la mémoire, j'ai bien vu l'enclos d'une basse-cour.
De toute manière, Sancho, allons-y. Pourvu que je la voie, qu'importe que ce soit par-dessus un enclos, par une fenêtre ou une porte entrebâillée, ou par la grille d'un jardin. Il suffira qu'un rayon de soleil de sa beauté frappe mes yeux et qu'il éclaire mon esprit et fortifie mon cœur pour que je devienne unique et sans égal par ma sagesse et ma faïence.
Je peux vous assurer, monsieur, que moi, quand j'ai vu ce soleil de Madame Dulcinée du Toboso, il n'était pas assez clair pour donner le moindre rayon. Peut-être que, comme elle était occupée à vaner du blé, ainsi que je vous l'ai dit, la poussière faisait comme un nuage devant sa figure, et son soleil s'est obscurci.
Est-il possible, Sancho, que tu t'obstines à dire, à penser et à croire que ma Dulcinée vanait du blé? Tu sais bien que, jaloux de ma bonne fortune, un perfide enchanteur s'acharne à transformer toutes choses qui me plaisent en leur donnant l'aspect qu'on leur voit. Aussi, je crains fort pour cette histoire imprimée qui, dit-on, relate mes exploits. Car si l'auteur est un magicien de mes ennemis, il y aura mis une chose pour une autre, mêlant une vérité à mille mensonges, se plaisant à raconter des actions qui n'ont aucun rapport avec la suite de cette authentique histoire.
Ils passèrent la nuit et le lendemain à converser de la sorte. Et au grand chagrin de Don Quichotte, il ne leur arriva aucune aventure digne d'être contée. Enfin, le jour suivant, à la nuit tombée, ils découvrirent la noble cité du Toboso. À sa vue, le cœur de Don Quichotte se réjouit, tandis que celui de Sancho s'assombrissait. l'écuyer ne connaissait pas la maison de Dulcinée. Il n'avait jamais vu cette dame-là de sa vie, pas plus d'ailleurs que son maître. Et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait inventer quand celui-ci l'enverrait au Toboso. Il était tout juste minuit, ou à peu près, lorsqu'ils entrèrent dans le village. Il y régnait un profond silence, car tous ses habitants étaient couchés et dormaient comme des souches. C'était une nuit assez claire, au grand regret de Sancho, qui aurait voulu qu'elle fût complètement noire, pour trouver dans cette obscurité une excuse à son ignorance.
Sancho, guide-moi vers le palais de Dulcinée. Qui sait, peut-être la trouverons-nous éveillée.
Nom de nom, mais qui parle de palais? Là où j'ai vu sa grandeur, ce n'était qu'une toute petite maison.
Sans doute s'était-elle retirée dans un appartement de son château pour s'y délasser en compagnie de ses suivantes, comme il est d'usage parmi les princesses et les dames de haut rang.
Pour le château, puisque vous y tenez. Mais vous pensez vraiment qu'à cette heure-ci, vous allez trouver porte ouverte? Et vous jugez convenable de cogner à grands coups pour qu'on nous entende et qu'on nous ouvre, au risque d'ameuter tout le monde?
Commençons par trouver le château. Je te dirai ensuite ce qu'il convient de faire.
Je vous en prie, laissez-moi aller chercher dans ces ruelles qui s'ouvrent devant nous. Je finirai bien par découvrir ce satané château, que je voudrais voir manger des chiens à cause de tous ces embêtements qu'il nous attire.
Parle avec respect, Sancho, de tout ce qui touche à madame.
Je tiendrai ma langue, monsieur. Mais reconnaissez qu'il me faut une bonne dose de patience. Je n'ai vu qu'une fois la maison de notre maîtresse, et vous me demandez de la retrouver et de vous y conduire en pleine nuit, alors que vous-même, qui devez l'avoir vue des milliers de fois, vous n'en êtes pas capable.
Il n'y a vraiment rien à attendre de toi, Sancho. Combien de fois t'ai-je répété, espèce d'hérétique, que de toute ma vie, je n'ai jamais vu l'incomparable Dulcinée, ni franchi le seuil de son palais. Je suis tombé amoureux d'elle par ouï-dire, pour avoir entendu vanter sa beauté et sa sagesse.
Première nouvelle. Eh bien, si vous ne l'avez jamais vue, moi non plus.
C'est impossible. Tu m'as dit toi-même que tu l'as trouvée en train de vanner le blé le jour où tu m'as rapporté la réponse à la lettre que je t'avais chargé de lui remettre.
Et après, moi aussi, c'était par ouï-dire que je la voyais. Et par ouï-dire la réponse que je vous ai rapportée. Je ne connais pas plus Madame Dulcinée que je pourrais atteindre le ciel d'un coup de poing.
Sancho, il y a des limites à la plaisanterie qu'il ne faut pas dépasser. Si je dis que je n'ai jamais vu la dame de mes pensées et que je ne lui ai jamais parlé, ce n'est pas une raison pour que toi tu en dises autant, quand tu sais bien que c'est tout le contraire.
Tandis qu'ils discouraient de la sorte, ils virent approcher un homme avec une charrue tirée par deux mules.
Ce doit être un laboureur qui s'en va au champ avant l'aube. Je veux bien être pendu, Sancho, s'il nous arrive rien de bon cette nuit. Entends-tu ce que chante ce paysan?
Bien sûr. Mais je ne vois pas le rapport entre la bataille de Roncevaux et ce qui nous amène dans le coin. Il pourrait bien chanter n'importe quel autre couplet, que ça ne changerait rien à nos affaires.
Pourrais-tu me dire, l'ami, de quel côté s'élève le palais de l'insigne princesse Dulcinée du Toboso?
Ah, ben moi, monsieur, je suis pas d'ici. Il y a quelques jours à peine que je suis arrivé dans ce village, pour servir aux travaux d'échange chez un riche fermier. Mais d'après moi, il n'y a pas la moindre princesse dans le coin. Des belles dames, ça, oui, il y en a. Mais qui peuvent se permettre de vivre comme de vraies princesses.
C'est parmi ces grandes dames que doit se trouver celle que je cherche.
Possible. Bon, mais le soleil se lève, adieu.
Français, dans quel mauvais port la bataille de Roncevaux.
Monsieur, le jour arrive à grands pas et il serait gênant que le soleil nous surprenne dans la rue. Sortons de ce village. Vous, vous resterez caché dans un bois près d'ici, et moi je vous rejoindrai quand il fera jour. C'est bien le diable si en passant les rues au crible, je ne finis pas par trouver la maison, le château ou le palais de Madame Dulcinée. Aussitôt, je demanderai à lui parler, je lui dirai où vous êtes et que vous attendez ses instructions pour vous présenter à elle sans porter atteinte à son honneur ni à sa réputation.
Tes propos, Sancho, me paraissent contenir plus de sagesse que 1000 proverbes bout à bout. Je suivrai donc ton conseil. Allons trouver un endroit où je pourrais m'embusquer.
À quelques 2000 de là, ils trouvèrent un bosquet où Don Quichotte se mit à l'abri, tandis que Sancho retournait au Toboso pour parler à Dulcinée.
Va, mon ami, et ne te laisse pas éblouir par la lumière que dispense ce soleil de beauté. Ah! Tu es bien le plus chanceux de tous les écuyers. Sois attentif à la manière dont elle t'accueille. car je veux que tu me rapportes jusqu'au moindre détail. Si elle change de couleur pendant que tu lui exposes ta mission, si elle s'inquiète et se trouble en entendant prononcer mon nom, si elle répète deux ou trois fois la réponse qu'elle te fera en laissant sa voix passer du doux au rude, puis de l'aigre à l'amoureux, si elle porte la main à ses cheveux pour les arranger, bien qu'ils ne soient pas en désordre. Bref, observe attentivement toutes ses actions, tous ses mouvements. Si tu me les rapportes avec exactitude, je pourrai en déduire ce qu'elle pense de moi dans le secret de son cœur. Va, mon ami, et puisses-tu avoir plus de chance que moi. Je t'attendrai dans la solitude où tu me laisses, partagé entre l'inquiétude et l'espoir.
Je serai de retour en un rien de temps. Allons, monsieur, dilatez-moi ce petit cœur qui ne doit pas être en ce moment plus gros qu'une noisette. N'oubliez pas ce qu'on dit. Bon cœur brise mauvaise fortune. Et aussi, la bille ne fait pas le moine. Ou encore, le lièvre revient toujours à son gîte. Tout ça pour vous expliquer que si cette nuit nous n'avons pas trouvé le palais de la dame, maintenant qu'il fait jour, j'espère bien tomber dessus quand je m'y attendrai le moins. Et une fois trouvé, vous pouvez me faire confiance.
À ces mots, Sancho tourna le dos à son maître et s'éloigna en donnant du bâton à son âne. Don Quichotte resta à cheval, appuyé sur sa lance, les pieds dans les étriers et la tête pleine de sombres et inquiètes pensées. Nous le laisserons là pour suivre l'écuyer, non moins sombre et inquiet que son maître. À peine sorti du bois, Sancho se retourna, et ne voyant plus Don Quichotte, mit pied à terre et s'assit contre un arbre.
« Et maintenant, Sir Sancho, dites-moi un peu où vous allez. Seriez-vous à la recherche d'un âne que vous auriez perdu ?»« Non, ma foi. Je cherche ni plus ni moins qu'une princesse, dont la beauté dépasse celle du soleil et de tous les astres réunis. »« Et de la part de qui allez-vous la chercher ?»« De la part du chevalier Don Quichotte de la Manche, notre grand redresseur de tort qui donne à manger à celui qui a soif et boire à celui qui a faim. »« Fort bien. Et avez-vous jamais rencontré cette princesse, Sancho ?» Ni moi ni mon maître ne l'avons jamais vue. Et que penseriez-vous si, sachant que vous venez séduire leur princesse et débaucher leur noble dame, les habitants du Toboso vous caressaient les côtes à coups de bâton en vous abreuvant d'injures ? Va des rétro, fous-moi le camp ! Pardieu, non. Je n'irai pas dénicher le merle blanc pour faire plaisir à qui que ce soit. D'ailleurs, chercher Dulcinée dans le Toboso, c'est comme chercher une aiguille dans un tas de foin. C'est le diable. Le diable en personne qui m'a fourré dans ce guépier. Il y a un remède à tout, sauf à la mort, parce que nous devons tous y passer, bon gré mal gré, quand vient notre heure. Mon maître m'a donné 1000 fois la preuve qu'il est fou allié. Et moi, je suis encore bien plus fou, puisque j'accepte de le suivre et de le servir. Comme dit le proverbe, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Ou encore, qui se frotte à l'ail ne peut sentir la giroflée. Donc, puisqu'il est fou, de ces fous qui prennent le plus souvent une chose pour l'autre, ils disent blanc quand c'est noir et noir quand c'est blanc, il ne sera pas bien difficile de lui faire croire que la première paysanne qui croise mon chemin est Madame Dulcinée. Et s'il ne me croit pas, je le jurerai. J'espère que ça le convaincra de ne plus jamais m'envoyer jouer les messagers.
Fort de ces réflexions, Sancho tranquillisa sa conscience et jugea l'affaire réglée. Cependant, il resta là jusqu'au soir pour que Don Quichotte pût croire qu'il avait eu le temps d'aller au Toboso et de revenir. Tout s'arrangea si bien pour lui qu'au moment où il s'apprêtait à remonter sur son baudet, il vit venir du Toboso 3 villageoises juchées sur des ânes. Aussitôt, il se hâta de rejoindre son maître Don Quichotte qu'il trouva tout soupirant et gémissant d'amour.
« Alors, Sancho ?» Dois-je marquer ce jour d'une pierre blanche ou d'une pierre noire ?
Si vous le marquiez en rouge, on le verrait d'encore plus loin.
Il m'apporte donc de bonnes nouvelles ?
Si bonnes qu'il vous suffit d'éperonner Rocinante et de sortir de ce bois pour vous trouver en présence de Madame Dulcinée du Toboso, qui vient à vous en compagnie de 2 jeunes filles de sa suite.
Dieu du ciel, que me dis-tu là ?
Donnez de l'éperon, monsieur, et vous verrez bientôt votre dame et princesse vêtue et parée comme il se doit. Elle et ses suivantes brillent des pieds à la tête. Elles croulent sous les perles, les diamants et les rubis. Leurs cheveux qu'elles portent flottant sur les épaules sont autant de rayons de soleil qui jouent avec le vent. Et surtout, elles sont montées sur 3 cananépis de pure merveille.
Tu veux dire des acnés ?
Canané, acné, quelle différence ? L'important, c'est que vous allez voir les dames les mieux habillées du monde. Surtout la princesse Dulcinée, ma maîtresse. Il y a de quoi en tomber raide.
Allons-y, Sancho. Et pour te récompenser de ces nouvelles, aussi bonnes qu'inespérées, je te promets le plus riche butin que je gagnerai dans la première aventure qui m'arrivera. Et si cela ne te suffit pas, je te réserve aussi les poulains que vont donner cette année les trois juments qui, comme tu le sais, sont sur le point de mettre bas dans notre pré communal.
Je m'en tiendrai aux poulains, parce que rien ne me dit que le butin de votre première aventure vaille quelque chose.
Sitôt sortis du bois, ils aperçurent, venant vers eux, les trois villageoises.
Dis-moi, Sancho, as-tu bien laissé les dames hors de la ville ?
Comment hors de la ville ? Est-ce que vous auriez par hasard les yeux dans la nuque, monsieur, pour ne pas voir que ce sont elles qui arrivent vers nous, resplendissantes comme le soleil en plein midi ?
Moi, Sancho ? Je ne vois que trois paysannes monter sur trois bourricots.
Que Dieu me délivre du diable ! Est-il possible que trois acnées, comme on les appelle, aussi blanches que la neige, vous paraissent des bourriques ?
Et moi, je te répète, Sancho, que ce sont des bourricots ou des bourriques. Aussi vrai que je suis Don Quichotte et toi Sancho Panza. Du moins, c'est ainsi que je les vois.
Voyons, monsieur, comment osez-vous dire une chose pareille ? Frottez-vous donc plutôt les yeux et venez faire votre révérence à la dame de vos pensées qui s'approche. Hola ! Hola ! Reine et princesse et duchesse de la beauté, que votre grandeur et votre altitude daignent accepter l'hommage de ce chevalier, votre esclave, qui se tient devant vous. Changé en statue de marbre, tellement il est ému et stupéfait de se voir en votre magnifique présence. Je suis Sancho Panza, son écuyer. Et lui, c'est l'aventureux chevalier Don Quichotte de la Manche, plus connu sous le nom de chevalier à la triste figure.
Don Quichotte s'était à son tour agenouillé auprès de Sancho et regardait avec des yeux écarquillés celle que Sancho traitait de reine. Et comme ce qu'il voyait, c'était une villageoise disgracieuse, au visage bouffi, au nez camard, il restait là, stupéfait, sans oser desserrer les lèvres.
Allez, Ouste, sortez-vous de là, qu'on puisse passer. On n'a pas de temps à perdre, nous.
Oh, princesse et dame universelle du Toboso, votre cœur magnanime ne se laisse donc pas attendrir en voyant, agenouillée devant votre sublime personne, la pierre angulaire de la chevalerie errante?
Attends un peu que je t'écris, beauté de mes deux. Regardez-moi ces jolis cœurs qui viennent se moquer des filles de village.
Comme si on savait pas dire des cochonneries aussi bien qu'eux.
Continuez votre chemin et laissez-nous suivre le nôtre. Vous la sentirez passer.
Laisse-toi, Sancho. Je vois bien que la fortune sur moi s'acharne en fermant tous les chemins par où pourrait venir quelque joie à cette âme imparfaite retenue dans mon corps. Quant à toi, ô divin extrême de toutes les vertus, degré suprême de l'humaine beauté, unique remède du cœur affligé qui t'adore, puisqu'un malin enchanteur me poursuit et a mis nuages et cataractes sur mes yeux, transformant pour eux seuls ton visage d'une beauté sans pareille en celui d'une pauvre paysanne, je te supplie, s'il ne m'a pas moi-même changé en monstre pour me rendre abominable à tes yeux, de me regarder avec douceur et amour, voyant qu'à genoux, mon âme vient humblement adorer ta beauté contrefaite.
Va dire ça à mon grand-père. Comme si j'avais le temps, moi, de me laisser compter des sornettes. Allez, poussez-vous, laissez-nous passer, c'est tout ce qu'on vous demande.
Sancho s'écarta et la laissa partir, ravi de voir que son stratagème lui avait aussi bien réussi. À peine celle qui avait tenu le rôle de Dulcinée se vit-elle libre que, piquant son baudet avec un aiguillon planté au bout d'un bâton, elle partit au galop dans la prairie. Mais l'animal, que l'aiguillon importunait plus que d'ordinaire, se mit à ruer, à se cabrer, tant et si bien que Dame Dulcinée se retrouva par terre. Don Quichotte se précipita pour la relever. Mais quand notre chevalier voulut prendre la dame enchantée dans ses bras pour la remettre en selle, celle-ci lui en épargna la peine. Reculant de quelques pas, elle prit son élan, et plus légère qu'un faucon, posant les deux mains sur la croupe de la bête, elle se retrouva sur le bas, à califourchon comme un homme.
Par Saint-Roch, notre maîtresse est plus légère qu'un épervier et pourrait en remontrer au plus habile voltigeur de Cordoue ou du Mexique. Elle a sauté d'un bond par-dessus l'arçon de derrière. Et regardez-la, qui sans éperon fait courir sa bête comme un zèbre. Quant aux demoiselles de compagnie, elles suivent ses traces et filent toutes les trois comme le vent.
Qu'en penses-tu, Sancho ? Vois quelle haine me portent ces enchanteurs et jusqu'où vont leur méchanceté et leur rancune. Ils ont voulu me priver du bonheur de voir madame telle qu'elle est. Et remarque aussi que ces traîtres ne se sont pas contentés de défigurer ma Dulcinée et de lui donner l'apparence laide et grossière de cette villageoise. Ils l'ont privée de ce qui est l'apanage des grandes dames. Je veux dire, la bonne odeur qu'elles ont toutes, entourées qu'elles vivent de parfums, de fleurs et d'ambre. Car, je t'avoue que lorsque je me suis rapproché de Dulcinée pour la remettre sur ce que tu appelles sa hackenée, mais qui pour moi n'est qu'une bourrique, elle m'a envoyé une bouffée d'ail cru qui m'a soulevé et empesté le cœur.
Oh, canaille ! Oh, enchanteur funeste et malfaisant ! J'aimerais vous voir tous enfilés par les ouïes comme des sardines sur leurs brochettes. Il ne vous suffisait pas, crapule, d'avoir changé la perle des yeux de madame en gland de chêne, ses cheveux d'or pur en crin de vache rousse, et finalement toute sa beauté en laideur. Il fallait que vous touchiez aussi à son odeur. Par elle, du moins, nous aurions pu deviner ce qui se cachait sous cette affreuse écorce. Quoique moi, à vrai dire, je n'ai jamais vu sa laideur, mais seulement sa beauté, que rehaussait encore une tache qu'elle avait sur la lèvre supérieure, un peu comme une moustache, plantée de 7 ou 8 poils blonds comme des fils d'or et plus longs que mon doigt.
D'après la correspondance qui existe entre les signes du visage et ceux du corps, Dulcinée ne peut manquer d'avoir une marque semblable sur le plat de la cuisse du même côté. Mais, tel que tu les décris, ces poils me semblent bien longs pour un grain de beauté.
Pourtant, monsieur, je peux vous assurer qu'ils y étaient tout à fait à l'aise.
Je veux bien te croire, mon ami, car la nature n'a rien donné à Dulcinée qui ne soit parfait et accompli. En aurait-elle 100 comme celui dont tu parles, qu'il deviendrait sur elle autant d'astres étincelants.
Ce coquin de Sancho avait bien du mal à se retenir de rire en écoutant les sottises de son maître, qu'il avait si joliment trompé. Finalement, après maintes considérations de ce genre, les deux hommes remontèrent sur leurs bêtes et prirent le chemin de Saragosse, où ils espéraient arriver à temps pour assister aux joutes solennelles qui se déroulent chaque année dans cette ville.
À suivre. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillou.
Onzième épisode.
Avec
Daniel Kenningsberg,
Bernard Ménez,
Laurent Ferraro,
Pierre Poirot,
Valérie Moinet,
Agnès Pontier
et France Ducateau.
Musique originale,
Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossier.